Et en fait, je vous propose d'enchaîner immédiatement avec dans le débat en invitant les trois intervenants du panel, qui sont Pablo Servigne, ingénieur agronome et chercheur, Marie-France Lecomte, cofondatrice de Copeco, un supermarché participatif, et Alexandre Lefebvre, assistant de recherche en agriculture urbaine à Jean Blou, qui chacun vont avoir le temps d'une courte intervention, et puis on continue le débat qui s'est déjà bien enclenché. Et je demanderai à Pablo Servigne de... est-ce que vous, il y a des présentations prévues ? Oui, ça arrive.
Bonjour à tous. Merci d'être resté. Hein, si vous comprenez à quel point peut-être c'est difficile de passer après la tête d'affiche. Surtout qu'on a 10 minutes chacun. Le débat a peu à peu glissé vers ce que je voulais dire, donc ça va aider. Je vais vous demander d'abord de faire un petit effort imaginaire, c'est-à-dire qu'on va imaginer un haut fonctionnaire dans un ministère de l'Agriculture, haut placé, qui vit en banlieue d'une capitale et qui décide de ne plus aller au travail, en tout cas à son bureau, de renoncer à tous les avantages qu'il a et de rester chez lui en banlieue, de défricher un terrain, de commencer à cultiver un potager, d'impliquer tous ses voisins et tout son quartier, et même la grande barre d'immeubles qui est dans son quartier. Et donc d'imaginer ça, et de vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout une utopie, ce n'est pas du tout un fou. C'est arrivé, il s'appelle Alberto, et c'est arrivé dans les années 90 à Cuba, autour de la Havane. Et je l'ai rencontré en 2010. Et en fait, après avoir lancé ce potager, 10 ans après, c'est devenu le plus grand potager urbain, la plus grande unité de production d'agriculture urbaine à la Havane. Aujourd'hui, il n'est pas le seul. C'est moi ou il y a un grésillement ? Non ? Ok, pardon. Il n'est pas le seul du tout intellectuel ou diplômé avoir remis les mains dans la terre. Il y a eu des avocats, des médecins à Cuba dans les années 90, des poètes, des artistes, des juristes aussi, n'est-ce pas Olivier, qui sont revenus, qui ont recommencé à cultiver des légumes près de chez eux. En fait, il y a eu une grande crise à Cuba dans les années 90. L'île, sous embargo états-unien, s'est vu privé de son allié soviétique qui s'effondrait, le bloc soviétique, et s'est vu isolé, une île au milieu des Caraïbes, sans ressources et avec un taux d'industrialisation extrêmement élevé, autant qu'aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser un haut fonctionnaire, un cadre, à développer finalement, à rester chez lui, à mettre les mains dans la terre et à développer une unité de production magnifique ? Eh bien, tout simplement, c'est la faim et la précarité. C'est ça qui pousse les gens. Et c'était le cas à Détroit, il y a une dizaine d'années, lorsque General Motors est parti, la ville qui avait 2 millions d'habitants est passée à 900 000 habitants, s'est vidée de plus de la moitié de ses habitants. Alors, outre les problèmes sociaux, économiques que la ville a vécu, il y a eu une explosion du nombre de potagers urbains et de jardins de production urbains. Restons aux États-Unis. Et vous connaissez, vous savez à quel point les Américains sont écolos. Eh bien, dans tout le pays, tout le monde s'est mis à rouler en vélo, à faire du covoiturage, à recycler leurs objets, à aller au magasin avec leurs propres sacs. Et c'est arrivé aux États-Unis, non pas aujourd'hui malheureusement, mais il y a plus d'une cinquantaine d'années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'entrée en guerre des États-Unis, c'était en 1941 après Pearl Harbor. Le gouvernement a lancé une immense campagne qui s'appelait les Victory Gardens, ici, pour cultiver, pour participer à l'effort de guerre. Et 2 ans après l'entrée en guerre, donc en 1943, 40% de la production de fruits et de légumes aux États-Unis sortait des Victory Gardens. Des gens, des citoyens. C'était dans les écoles. Ici, on a une vue au Smith College. Des grandes universités se mettaient à cultiver. Le président de Harvard University était au conseil des Victory Gardens, au conseil avec le président, etc. Et ce genre d'initiative a existé aussi pendant la Première Guerre mondiale. On les appelait les War Gardens. Pendant les années 30, après la crise, on les appelait les Subsistence Gardens. Et ça existait en Angleterre aussi, en Australie, etc. Quel est le point commun entre Cuba, Détroit, hein, la ville post-industrielle par excellence, et les War Gardens et les Victory Gardens? Le point commun, c'est que dans une ville, en gros, quand il y a des grands problèmes, les gens se mettent à faire leur potager. Et ça peut prendre une échelle considérable. Ça peut aller très vite et ça peut se faire en grand. Et là, vous allez me dire, vous parlez de chocs, de problèmes que nous n'avons pas ici. Quel choc pourrions-nous avoir ici pour déclencher de telles dynamiques? Eh bien, je n'ai pas le temps de développer ici, mais ça fait partie de toutes mes recherches. Aujourd'hui, nos sociétés interconnectées de manière homogène au niveau mondial, donc la mondialisation a interconnecté les réseaux de communication, les réseaux d'énergie, les réseaux d'infrastructures, de chaînes d'approvisionnement, etc., de manière tellement homogène et rapide que nous avons créé un nouveau type de risque qui est le risque systémique global, donc des risques d'effondrement massif. Alors ça peut prendre des effets comme des pandémies, mais ça peut être aussi un énorme blackout ici sur le nord de la côte est aux États-Unis pendant plusieurs jours. Imaginez qu'est-ce que vous pourriez manger après 3 jours de panne d'électricité à Charleroi, après 5 jours, après 7 jours où les magasins sont vides, après 2 semaines sans avoir fait le plein d'essence. Qu'est-ce que vous allez manger? Et en fait, ce genre de choc arrive, et il arrivera de plus en plus fréquemment, évidemment, avec les ruptures d'approvisionnement en énergie et les chocs climatiques. Mais ils peuvent être courts, donc durs mais courts, mais ils peuvent aussi être longs. Et je pense en particulier au risque d'approvisionnement en énergie, mais ça peut être aussi des risques de conflits armés qui deviennent non négligeables même dans nos régions, qui deviendront de plus en plus probables en tout cas. Vous savez que en Syrie aujourd'hui, dans les villes dévastées à Homs, à Damas, etc., il y a beaucoup de potagers qui renaissent, enfin de potagers urbains qui sont lancés, d'échanges de semences, etc. Alors ça peut prendre la forme de simplement la crise argentine en 2001, où il n'y avait plus d'argent dans les distributeurs. Comment vous faites sans distributeur pendant 3 semaines? Et en fait, tout cela nous indique quoi? Qu'en fait, le retour au local, c'est la seule manière de se réorganiser après les chocs. Ça redonne de la puissance d'agir et de la résilience. La résilience, c'est la capacité de se maintenir, de maintenir nos fonctions malgré les chocs qu'on se prend dans la figure. Ok? Alors ça, c'est après un choc, mais avant un choc. Autrement dit, aujourd'hui. Eh bien, c'est tout l'objet de la transition. La transition, c'est d'arriver à anticiper les chocs. C'est une démarche complètement absurde. Aujourd'hui, dans un monde où on vit confortablement, avec le chauffage, de l'électricité en abondance, de la nourriture, c'est absurde, c'est très difficile à mettre en place, comme on l'a vu ce matin. Le système alimentaire industriel, c'est mon intuition après toutes ces années de recherche, est en fait extrêmement vulnérable. Il est puissant, mais extrêmement vulnérable à ces chocs, justement. Et les catastrophes, je pense, contrairement à ce que disait Olivier de Schutter, ne sont pas une aubaine pour lui, ne sont vraiment, sont vraiment des catastrophes. Mais sont plutôt, ces catastrophes sont des aubaines pour nous, puisque la transition pourrait être vue comme l'effondrement d'un grand arbre centralisé, le système alimentaire industriel qui nous nourrit. Et dans la forêt, lorsqu'un grand arbre s'effondre, c'est parce qu'il s'effondre que les jeunes pousses émergent. et les jeunes pousses, c'est toutes les niches qu'on a vues et dont on va parler tout de suite. Donc voilà la transition, c'est effondrement, renaissance. Mais ça ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire un déverrouillage massif de tout ce qui nous empêche actuellement d'aller vers une transition. Donc c'est plutôt une opportunité. Alors si on tente un petit exercice prospectif, imaginons aujourd'hui Charleroi ou les villes européennes industrielles dans 10, 15, 20 ans, au niveau de la demande, je suis convaincu que nous mangerons mieux, donc moins de gras, moins de sucre, moins de protéines, moins de sel, en gros moins de crasse. Mais, ça on pourra en parler après si vous voulez, l'exemple de Cuba est aussi intéressant, il est très difficile de faire changer les habitudes alimentaires des gens. Trois petits points, parce que je n'ai pas le temps de développer. L'agriculture urbaine va continuer son essor époustouflant, qu'on le veuille ou non. Je mets juste deux bémols. Méfiez-vous, ça c'est mon opinion, hein, méfiez-vous de l'agriculture urbaine ultra technologique, c'est-à-dire qui consomme beaucoup de ressources et de matériaux, et de l'agriculture urbaine que j'appelle petite bourgeoise, qui consiste dans les pavillons de banlieue à faire juste son petit jardin en permaculture. C'est bien, mais c'est pas assez. Voilà, pour l'agriculture urbaine. La clé, à mon avis, se situe dans le périurbain que nous avons bétonné en masse et qu'il faut absolument protéger, voire débétonner. Et débétonner, ça coûte de l'argent et de l'énergie, du pétrole. Attention aussi, attention aux pollutions, et en particulier aussi dans les sites industriels, dans le périurbain, et aux immenses forces économiques et politiques qui empêchent la revivification, on va dire, le redéploiement de l'agriculture périurbaine. Donc là, on pourrait prendre exemple sur les maraîchers parisiens du 19e siècle, autour de Paris, qui ont bénéficié d'un immense apport de fumier et de tous les chevaux qu'il y avait à Paris pour développer l'agriculture parmi les plus productives de l'histoire de l'agriculture depuis 10 000 ans. Ils pouvaient faire jusqu'à 7 à 8 récoltes sur une parcelle par an. Et c'était à deux pas de Paris. Alors, enfin, dans les campagnes, tout va changer. Je n'ai pas le temps de développer non plus, mais il y aura des systèmes agroécologiques en polyculture qui vont se développer massivement avec un retour de l'arbre et des animaux et pourquoi pas, enfin j'en suis persuadé, de l'attraction animale dans nos régions. Voilà pour le petit tour prospectif. À cela, il faut ajouter que la consommation d'énergie actuellement de nos villes est ahurissante, d'énergie et de ressources. Et avec tout ce que j'ai pu lire, je pense que nous n'arriverons pas à maintenir ce niveau et qu'il y aura une diminution drastique de notre richesse, en fait, de l'abondance énergétique que nous pouvons déployer en ville. Ça veut dire très probablement une dépopulation des villes, donc ce que les futurs géographes appelleront un exode urbain. Je pense que ça a commencé, la tendance va se confirmer. Et donc on va vivre peut-être dans les années qui viennent ce moment assez incroyable de basculement où la ville, qui traditionnellement est considérée comme un refuge, va peut-être devenir un repoussoir. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait des forteresses, hein, pendant les invasions barbares, tout le monde allait se réfugier en ville. Aujourd'hui, on va en ville pour trouver un travail, des amis, un reconfort, de l'argent, que sais-je. Je pense que ça peut basculer et l'imaginaire des gens est quelque chose qui bascule très vite. Donc ce sont des dynamiques aussi qui peuvent accélérer la transition. Juste pour ajouter au magnifique plaidoyer d'Olivier, s'il y a quelque chose à rajouter, c'est peut-être ce petit ingrédient qui me vient de mon expérience à Cuba, enfin mon voyage à Cuba, qui m'a montré que la transition cubaine, si elle avait pu avoir lieu si vite et à si grande échelle, c'est parce qu'il y avait eu deux forces, deux ingrédients. La première, une force qui vient du bas, du peuple, la faim et la nécessité, c'est extrêmement puissant, et l'auto-organisation. Mais cette force, elle doit rencontrer par le haut un pouvoir politique qui est au minimum légitime tout ce qui se fait, et au mieux l'appuie par des lois et des décrets concrets et rapides. Et c'est ces deux ingrédients, c'est la convergence de ces deux ingrédients qui fait une transition rapide. S'il manque l'un des deux, c'est foutu. Et aujourd'hui en Europe, ici, maintenant, là, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a ni faim et on a des lobbies et des verrouillages absolument affreux qui bloquent tout en haut. Une petite conclusion en trois parties. Le premier élément, c'est que je vous invite à voir le système qui vous nourrit. Aujourd'hui, c'est un système industriel dont toutes les étapes de la production, distribution, transformation jusqu'aux déchets, toutes les étapes consomment massivement des énergies fossiles. C'est catastrophique. Et voir son système alimentaire, ça veut dire le connaître, le maîtriser, ça veut dire retrouver une puissance d'action. Évidemment, c'est par le local que c'est beaucoup plus facile. Et les petits systèmes. Donc je pense que nous irons vers des petits systèmes décentralisés, cycliques, plus transparents et beaucoup plus sociaux, évidemment, que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Deuxième petit mot de conclusion, je vous invite à prendre tout ce qui vous arrivera dans la figure, tous les chocs, ce que j'appelle les chocs, non pas comme des catastrophes, mais comme des opportunités. Et l'invitation, c'est faire de l'aïkido, pour ceux qui en ont fait. Quand quelque chose vous arrive dans la figure, faites un pas de côté et utilisez, ne combattez pas ça, utilisez cette force pour changer les choses. Et troisièmement, comment est-ce que je saurais, comment est-ce qu'on saura qu'on aura pris la bonne décision ? Alors une petite boussole, premièrement, quand vous faites un choix, choisissez toujours ce qui consomme le moins d'énergie à long terme et le moins de ressources aussi. Deuxièmement, préférez le low-tech au high-tech. Troisièmement, lorsque vous renforcez des liens entre les humains, mais aussi entre nous et les autres qu'humains, les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, les forêts, les ruisseaux, c'est très bon signe. Tout ce que vous faites et qui renforcera les liens, c'est bon signe, c'est la bonne direction. Et enfin, dernièrement, lorsque vous redonnez du sens à votre vie, c'est aussi très bon signe. Merci de votre attention.
Merci.
Juste pour dire, Eric, que vous pouvez développer, enfin tout ce que j'ai dit est développé dans le rapport Nourrir l'Europe en temps de crise que j'ai présenté au Parlement européen en 2013, qui est paru en bouquin malheureusement épuisé, mais le PDF se trouve sur Internet, et le livre Comment tout peut s'effondrer sur l'effondrement de notre civilisation, paru en 2015 au Seuil. Merci.